je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pendant cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, la libération de la parole. J'ai beaucoup écrit et parlé de ce sujet, car il me semble effectivement absolument essentiel pour le bien-être au travail. Et pour cet épisode, j'ai décidé de faire venir une invitée qui est spécialiste de ce sujet. Il s'agit de Manon Renoncia-Laurent, qui est coach fondatrice de l'Atelier Léonard, et elle va nous parler des enjeux de la libération de la parole, de comment on fait pour libérer la parole, des problèmes qu'il peut y avoir à le faire. Bref, vous allez tout savoir sur la libération de la parole. J'espère que vous passerez un aussi bon moment et intéressant moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le réaliser. Bonne écoute. Bonjour Manon.
Bonjour Gaël.
Alors Manon, mille merci d'avoir accepté de me parler pendant cette petite demi-heure de libération de la parole, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Alors ce n'est pas votre seul sujet, et je vais d'ailleurs commencer par vous présenter très rapidement pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Donc Manon Renoncia-Laurent, vous avez passé un peu plus de 10 ans en entreprise, notamment chez Hermès, mais depuis 4 ans, vous consacrez votre vie à une mission extrêmement importante: coacher les gens. Alors, coach, c'est très très large, mais on s'est rencontrés sur LinkedIn et on a eu pas mal d'échanges sur un sujet que l'on a en commun, qui est la libération de la parole, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un numéro spécial sur la libération de la parole. Donc nous allons parler exclusivement de cela, de libération de la parole, et comment votre regard de coach va permettre de faire évoluer peut-être certains de nos auditeurs sur cette problématique qui n'est honnêtement pas toujours simple. Alors ma question, par contre, ma première question, ma chère Manon, est extrêmement simple. Pourquoi est-ce si important de libérer la parole en entreprise ?
Eh bien, libérer la parole est fondamental parce qu'il s'agit de s'engager dans un véritable dialogue, en réalité, puisque quand on parle de libérer la parole, on parle aussi de autoriser la parole et autoriser aussi une véritable écoute. Donc ça veut dire engager un dialogue vrai à toutes les échelles de l'entreprise. Depuis, il faut qu'il y ait une intention hein, de la part de la direction, et puis ensuite de chaque manager et de chaque collaborateur. L'idée, c'est de pouvoir écouter les collaborateurs, écouter les managers également, pour comprendre ce qui va bien, ce qui va moins bien, et comment on peut travailler ensemble à améliorer les choses dans deux buts. Le premier, qui est le bien-être de chacun et le bien-être collectif, et le second, qui est de ainsi améliorer la performance collective de l'entreprise ou de l'organisation.
Bien sûr. Alors moi, je fais un parallèle qui chafouine certains grands spécialistes du management et de l'entreprise, mais je fais fi de cela. Je compare très souvent la libération de la parole en entreprise à la libération de la parole que l'on peut avoir dans notre vie personnelle. Est-ce que cette comparaison, finalement, c'est pas la bonne pour bien faire comprendre aux gens que dans notre vie amoureuse ou avec nos enfants, libérer la parole, c'est aussi ne pas avoir de non-dit, c'est ne pas cacher nos fautes, c'est pas cacher nos erreurs, et de construire quelque chose de plus en plus solide parce que tout est clair. Est-ce que ce parallèle vous parle ou vous faites partie des gens qui font une énorme différence entre les deux ?
Non, pour moi, c'est absolument similaire, même si les enjeux sont différents. Mais là, on parle d'un sujet qui est extrêmement humain en réalité. Mmh. Et d'ailleurs, là, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur LinkedIn et quelqu'un m'a dit « Mais c'est drôle, ce que vous dites m'évoque vraiment la façon dont je suis avec mes enfants, dont j'éduque mes enfants. » Parce qu'au fond, il s'agit d'écoute et de parole, de mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble.
Et il s'agit d'humain, vous avez raison. Il faut revenir à ça quand même. L'entreprise est faite d'êtres humains et j'ai l'impression qu'on redécouvre ça. C'est ça qui est fantastique.
Oui, là, je pense que, en particulier, évidemment, c'est un mouvement de fond, mais la crise sanitaire a permis peut-être d'accélérer aussi cette dimension par différents aspects, notamment le fait qu'on travaille, qu'on soit en télétravail, qu'il y ait cette incursion dans la vie personnelle des collaborateurs. Et ainsi, on s'est rappelé qu'ils étaient des êtres humains, des êtres singuliers aussi, que chacun était différent, que chacun avait des besoins différents. Et puis, c'est vrai que le fait de s'écouter, de dialoguer et de s'efforcer de mieux vivre ensemble, c'est vital pour l'être humain.
Et puis ça apaise beaucoup les relations, ça zénifie beaucoup de situations en fait. Les non-dits, il n'y a rien de pire, je crois.
Oui, bah c'est ce qui mène. Nous, on est les humains, on est la seule espèce à se faire la guerre pour ce genre de raisons, pour des malentendus, pour des paroles, pour des raisons de parfois de langage, de malentendus, de compréhensions différentes de certaines choses. Nous, on a un besoin vital de coopérer et de se comprendre pour survivre. Enfin, c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'ici.
Bien sûr. Mais alors, voilà, ça c'est, les bases sont posées, mais ça a l'air génial. Mais quels sont les freins, vous, en tant que coach, que vous constatez chez certains de vos clients ? Ou en général,
alors,
d'ailleurs.
Oui. Pour moi, il y a déjà deux choses là dont, enfin, j'ai déjà un petit peu dit dans cette question de libération de la parole. Il y a la parole d'un côté, le fait de pouvoir s'exprimer librement, et de l'autre, la libération, je dirais, de l'écoute. Hein, celui qui va écouter, est-il prêt à entendre vraiment ? Est-il prêt à écouter ? Et donc, il y a ces deux enjeux-là en parallèle. Alors, du côté de... Je vais commencer par l'écoute, parce que pour moi, c'est la base. Il faut qu'il y ait déjà des bonnes conditions pour un échange riche et libre. Les freins en matière d'écoute, bah c'est justement, ça peut être la crainte de, je veux dire, d'ouvrir la boîte de Pandore, la crainte de ce qu'on va entendre. Si je suis un manager et que je veux donner la parole vraiment à mes collaborateurs, bah, je peux avoir un petit peu peur de déjà d'être mis en question, moi en tant que manager, ou que mon entreprise aussi soit mise en question sur certains aspects. Je ne suis pas forcément prêt à entendre la critique. Donc ça c'est quand même un gros frein.
Mais ça, j'entends souvent, ma chère Manon, le côté « on va ouvrir la boîte de Pandore », mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les gens qui ont cette crainte sont souvent des personnes qui ont effectivement raison d'avoir peur, parce qu'ils ont bien conscience que, oui, il faut libérer la parole parce qu'il y a des vrais problèmes et qu'ils préfèrent mettre ça sous le tapis?
Oui, oui, en effet, et de toute façon, moi je travaille beaucoup aussi autour des émotions, de l'intelligence émotionnelle, et on voit bien que de toute façon, quand il y a un mal-être, il gronde, il peut être tu, mais en revanche, il y a des choses qui vont s'exprimer, soit la performance va s'en ressentir, ou bien il va y avoir des problèmes entre collaborateurs, enfin, de toute façon... Le mal-être va s'exprimer d'une façon ou d'une autre.
Oui, et puis un problème ne se gère pas par magie, il ne va pas disparaître parce qu'on l'a mis sous le tapis ou qu'on n'en parle pas, c'est bien ça.
Oui, tout simplement. Alors, il ne s'agit pas forcément... Parce que quand on dit ouvrir la boîte de Pandore, c'est parce qu'on imagine tout de suite quelque chose de complètement collectif, un mouvement qui va tout renverser. Alors qu'au fond, il s'agit de le faire échelle par échelle. Alors, je disais qu'il faut qu'il y ait une intention déjà de la direction, mais après, ça se fait, je dirais, en one-to-one, en un à un, manager et collaborateur, par exemple, ou en équipe, dans un cadre comme ça, qui est déjà protégé, dans une écoute qui est respectueuse. Et puis, le manager, après, peut aussi faire un tri et entendre ce qui revient le plus souvent, faire remonter certaines choses. Donc, il va y avoir pas mal aussi d'étapes et de filtres qui vont faire que ça va pas être forcément le grand chambardement.
Bien sûr.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager des changements profonds.
Mais alors justement, on parlait des freins à l'écoute, mais est-ce qu'il y a des freins à la prise de parole ?
Oui, alors ça c'est le deuxième point qui est lié au premier, c'est-à-dire que le premier frein, je pense à pour s'exprimer librement, auprès notamment de sa direction ou de son manager, c'est de sentir qu'il y a un vrai cadre d'écoute. Est-ce que je vais être réellement écoutée ? Est-ce qu'il va me couper la parole tout le temps ? Est-ce qu'il va chercher tout le temps à répondre à toutes mes objections ? Ou bien est-ce qu'il va pouvoir être silencieux et véritablement m'entendre avec bienveillance ? Donc il y a déjà tout ce contexte-là. Se sentir en sécurité, en fait, dans l'échange. Mmh. Et ça, il y a des choses qui doivent être explicitées avant de vouloir dire des choses un peu importantes. Bah, être sûr qu'il y a un cadre de bienveillance et de confidentialité, par exemple.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne s'agit pas pour un manager, au moment d'une réunion, comme ça tomberait comme un cheveu sur la soupe, de dire « bon, bah, dites-moi ce que vous voulez ». Ça se construit, c'est ça, la libération de la parole, c'est une vraie stratégie, en fait.
Voilà, c'est une vraie stratégie qui se construit. Il faut se préparer quand on est le manager qui va écouter. Il faut se préparer à écouter. Et il faut, je pense, poser vraiment le cadre avec son collaborateur ou ses collaborateurs, des règles du jeu, par exemple, pour que la parole puisse se sentir libre, enfin, j'ai envie de dire. Donc ça pour moi, c'est le premier frein, hein, quand on craint de ne pas pouvoir s'exprimer vraiment, ou bien quand on craint que ce qu'on dit puisse se retourner contre soi.
Quoi. Bien sûr. Ouais. Ça, je l'entends beaucoup, les gens qui disent « Mais si je dis vraiment ce que je pense, je vais pas avoir de promotion, ou je peux me faire virer, etc. » Donc là, c'est vraiment fondamental que ça vienne de tout en haut, qui est vraiment un contexte bienveillant pour expliquer « Non, la parole que vous allez libérer va nous permettre d'évoluer vers du meilleur. » C'est ça, il faut que ça soit vraiment ça. Quelque chose de où tout le monde peut parler de façon libre.
Tout à fait. Et quand je disais qu'il faut aussi poser, qu'il faut poser un cadre, c'est un cadre de sécurité, mais c'est aussi des règles du jeu de cette prise de parole. Parce que libérer la parole, ça ne veut pas dire se mettre à déverser toute sa colère et ses frustrations sans filtre. Moi, dans ma pratique de coach, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'assertivité, c'est le fait de pouvoir affirmer son besoin ou sa demande de façon calme, ferme, mais sans agresser l'autre, en fait, en prenant aussi en compte ses limites, ses besoins. Et ça, c'est aussi tout un art qui est important pour la personne qui va parler.
Et que ça soit argumenté également, parce que moi, j'ai eu, dans ma carrière de manager, j'avais parfois des collaborateurs ou collaboratrices où c'était « ça va pas ». Oui, mais pourquoi ? Non, mais ça va pas. Arrête, ça va pas. Oui, mais explique. Et cette libération de la parole est totalement improductive.
Oui, parce qu'il faut être précis, en effet. Enfin, il y a plusieurs choses. Il faut être précis dans ce qu'on veut dire. Donc ça aussi, ça peut se préparer, hein, quand on a la chance de savoir qu'on va avoir un rendez-vous pour s'exprimer. Ben, de préparer ce rendez-vous, bon, ça semble assez évident, mais de centrer... De centrer ce qu'on va dire sur ce qui est le plus important, sur ce qui nous semble le plus important, et de bien l'objectiver, c'est-à-dire de nos propos, il faut qu'ils soient appuyés sur des faits, ça peut être sur des chiffres, sur des exemples concrets, qui sont le plus objectifs possible, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être sujets à interprétation. Voilà, et ça, c'est pas facile, hein, de séparer ce qu'on a observé. De ce qu'on pense croire, de ce que pense l'autre, etc. Où là, on part dans quelque chose, on part dans le monde des malentendus.
Bien sûr, donc, et puis il faut éviter des expressions comme j'ai l'impression que, on m'a dit que, bref, tout ce qui n'est pas objectif et qui est de l'ordre de l'émotion au final. Alors l'émotion, on ne doit pas l'interdire, mais en tout cas, dans le cadre d'une prise de parole. Pour faire évoluer les choses, effectivement, il faut être extrêmement concret. Ce qui n'est pas toujours simple, d'ailleurs, même dans nos vies privées, en fait.
Oui, je le constate tous les jours, et c'est vraiment un cheval de bataille pour moi de pouvoir parler, en effet, de façon simple, de choses réelles et concrètes, en s'appuyant sur des exemples sans les transformer. Mmh. Après, sur la question des émotions... pour moi, elles font partie de cet échange, et d'intégrer cette dimension émotionnelle, pour moi, c'est un vrai outil pour une parole vraie. Mais je distingue ce qui est lors de s'épancher, ça va pas, je suis mal, je craque, même si parfois il faut pouvoir dire je craque quand même. Hein. Mais de bon, il y a s'épancher. Il s'agit pas de s'épancher, surtout en entreprise, mais quand même de pouvoir dire calmement un ressenti. Mais un ressenti, c'est pas « j'ai l'impression que tu ».
Bien sûr.
Par exemple, « j'ai l'impression que tu m'en veux ». Ça, c'est pas un ressenti, c'est une interprétation. Mmh. Un ressenti, il dit « je ». Mais ça, pour moi, une parole vraie, elle intègre cette dimension. Il faut bien choisir à quel moment on va parler de son émotion et pourquoi. Mais et puis comment aussi, avec quels mots, etc. Mais pour moi, ça en fait partie.
Et est-ce que le je n'est pas quelque chose de prioritaire dans la prise de parole et dans la libération de la parole ? Parce qu'on a tendance quand même en entreprise à utiliser beaucoup le on. On pense que, on a le sentiment que etc., etc. Alors que là, au même titre qu'on va demander au management de plus en plus d'individualiser le management, comme vous l'avez très bien dit en introduction, est-ce qu'on ne doit pas, nous, collaborateurs et collaboratrices, reprendre ce réflexe du jeu et de se renarcissiser en disant « mais j'ai le droit d'avoir un ressenti, j'ai le droit d'avoir une opinion qui n'appartient qu'à moi ». Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, cette difficulté au jeu ?
Oui, je le constate et je suis pleinement d'accord sur l'importance du jeu. Et je me bats contre le « on ». Je le trouve en effet, il n'exprime pas une véritable pensée individuelle. Hein,
je vais vous donner une citation célèbre de ma grand-mère, « on est un con ». Ma grand-mère était une grande philosophe, Manon. Vous ne le saviez pas.
mais je suis d'accord avec votre grand-mère, hein, parce que le « on » peut être très nocif. Il peut laisser croire justement à une pensée collective, là où en fait c'est juste quelqu'un qui n'ose pas dire « je », voire qui préfère dire « on » parce qu'il croit que ça lui donne de la force, hein, que ça donne de la force à sa parole. Mais le « on » peut être aussi un peu menaçant. Hein, un manager qui entend « on est mécontent
»,
on est mécontent de ce qui se passe là, en ce moment, dans l'équipe. Ouh là là, là le manager peut avoir un peu transpiré. Enfin, qu'est-ce que ça signifie ? C'est qui « on » Donc pour moi, la première chose à faire quand quelqu'un dit « on », c'est demander « mais qui est « on » exactement ?»
Oui, ou alors même de dire, parce que qui est « on », ça pourrait être interprété par « vas-y, dénonce tes camarades ». Peut-être dire « le « on » est intéressant, mais par contre là, c'est ton opinion qui m'intéresse, c'est ton regard, et pas forcément celle du groupe. Parce que pour le groupe, j'ai un exercice. Hey, Manon, j'ai un cadeau à vous faire. Est-ce que vous êtes prête à recevoir ? Non, mais c'est un exercice que je propose beaucoup aux managers qui veulent libérer la parole et qui marche très bien pour passer du « je » au « on ». Parce que malgré tout, on aime bien ce côté grégaire pour pouvoir voir son manager, pour faire évoluer son manager. Là, dans le cadre de faire évoluer un manager, c'est un exercice, j'en suis à plusieurs centaines comme ça, j'ai assisté à certains derrière des glaces sans teint. Vous prenez, le manager dit à son équipe, voilà, vous allez vous réunir pendant une heure dans cette salle et vous allez remplir deux colonnes. La première colonne, ce que vous trouvez que je fais bien en tant que manager. La deuxième colonne, ce que vous pensez que je peux faire mieux. Mais il y a une règle. Chaque point doit être validé par l'ensemble de l'équipe. Ce qui permet à l'équipe, parce que j'ai assisté à des débats, un collaborateur qui dit « Ah, oh, mais j'arrive jamais à le voir », et l'autre collaborateur de la même équipe qui dit « Ah ben, je comprends pas, moi je peux le voir quand je veux ». Et en fait, ça permet de déclencher une intelligence collective, un regard collectif sur le manager, et ça donne vachement des outils au manager pour lui-même évoluer. Donc le « je » et le « on », je crois que ça va dépendre des situations, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, mais peut-être en fonction des situations, donner l'opportunité à l'équipe de parler en tant que « on », parce que c'est rassurant, malgré tout, mais de donner cette ouverture à chacun de parler en son nom. Et je crois que c'est ça qui est dur, mais depuis qu'on est tout petit, on n'ose pas lever la main pour dire « je ne suis pas d'accord » à la maîtresse ou au maître. C'est dur quand même, dans notre éducation. Il y a le poids de l'éducation quand même, non ?
Oui, il y a l'éducation, et puis il y a ce côté, on doit rester sage, pas trop s'exprimer, et surtout individuellement, parce qu'on risque de se démarquer des autres, et peut-être donc d'être un peu exclu. Mais ça, je pense que l'humain, d'ailleurs, je pense que c'est très animal. Enfin, l'humain a besoin de se sentir faire partie d'un collectif, et c'est pour ça que ce cadre dont je parlais, ce cadre de dialogue, ces règles du jeu, elles sont fondamentales pour se sentir en sécurité, pour pas avoir l'impression que justement on risque d'être exclu ou pénalisé à titre individuel pour ce qu'on a dit. Et j'ai bien aimé votre exercice. Moi, j'apporterais une nuance, c'est que pour moi, c'est un nous. Voilà. Enfin, c'est un peu jouer avec les mots, mais je pense que ça compte. Hein. Le nous, c'est un collectif composé de plusieurs personnes qu'on peut citer. Effectivement, il ne s'agit pas de dénoncer ses collègues, mais là, il y a le collectif et c'est assumé comme tel, un nous. Et puis, à côté de ça, il y a le jeu et le fait de pouvoir affirmer. Moi, en tant que coach, je travaille beaucoup avec mes clients sur la question de la singularité. Aller vraiment comprendre qui je suis, quels sont mes besoins individuels, personnels, quels sont mes talents singuliers, qu'est-ce que j'ai à exprimer. Et c'est comme ça que je vais pouvoir apprendre petit à petit à dire je, à oser dire je. Parce que c'est comme ça aussi qu'au niveau individuel, je vais pouvoir créer un chemin à moi, quoi, y compris dans une même entreprise, pour ne serait-ce que me sentir mieux dans mon travail. Pour ça, le jeu est indispensable, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins.
Et ça fait du bien de pouvoir dire « jeu », ça renarcissise, et c'est vraiment fondamental. Alors, ma chère Manon, on va arriver proche de la fin de cet entretien, mais il me reste encore une ou deux questions. Alors, mis à part faire appel à vos services ou à un coach, si vous deviez donner un conseil à un manager ou à un manager, d'ailleurs un seul, pour commencer à travailler sur la libération de la parole, ça serait quoi? Je sais que la question est un peu vacharde et complexe, mais je suis comme ça, vers la fin d'interview, je donne des questions un peu plus vachardes. Non, est-ce que vous auriez un conseil pour attaquer cette démarche? Alors peut-être à un manager plutôt, puisque c'est, comme on le disait, il faut quand même que ça soit enclenché par la direction. Qu'est-ce que vous feriez?
Alors j'aurais la question est complexe, mais je vais tenter de répondre simplement. Mon premier conseil au manager, c'est d'apprendre à se taire.
Oui, c'est très vrai.
C'est un peu provocateur.
Non, mais c'est
mais
très vrai.
C'est, voilà, c'est d'apprendre à se taire pour pouvoir véritablement écouter. Et pour moi, écouter, c'est d'abord pouvoir se taire.
Et bien sûr.
Pour laisser l'échange émerger. Voilà, ouais. Ça, ce serait.
Et surtout, ne pas avoir le sentiment, quand un collaborateur, une collaboratrice commence une phrase, qu'on connaît la fin. Et donc, vraiment se taire jusqu'à ce que la personne se taise. Alors, encore plus complexe comme question. Moi, ça m'est arrivé, dans ma carrière professionnelle, d'avoir des managers qui étaient bouchés à l'aimerie, qui n'écoutaient rien, qui étaient un peu assez proches de Darth Vader, en fait, pour rien vous cacher. Quel conseil vous donneriez à un manager qui, justement, adorerait pouvoir parler? Est-ce que on sollicite un entretien? Est-ce qu'on le fait par écrit pour plus poser les choses et expliquer au manager l'intérêt de pouvoir parler? Comment on peut s'y prendre pour manager son manager d'une certaine manière?
Oui, donc pour le solliciter pour pouvoir exprimer des choses, c'est ça?
Ouais.
Avec lui ou elle. Moi, je ne mettrai rien par écrit s'il n'y a pas justement tout ce cadre de sécurité qui est établi. Par écrit, je solliciterai simplement un rendez-vous en disant que j'ai besoin qu'on se... Ou bien, est-ce que on pourrait se voir à deux? Il y a quelque chose d'important dont je voudrais te parler.
D'accord.
Voilà, mettre un petit peu en scène ce moment, mais pas par stratégie, mais simplement pour montrer que c'est un moment qui doit être...
Un peu formel.
Un peu formel, mm-hmm. Oui. Et aussi pour attirer son attention. Et le deuxième conseil, si c'est face à quelqu'un qui n'écoute pas ou bon, qui est très fermé, et ben là, pour le coup, je pense que le fait d'intégrer une dimension émotionnelle peut aider. Et là encore, de façon très cadrée, hein, mais pour déclencher l'empathie de son interlocuteur.
Oui, une prise de conscience. De l'interlocuteur, oui. Sur son incapacité à écouter sans être agressif, mais dire, tu vois, par exemple, tu viens de me couper la parole, comme je viens de vous le faire d'ailleurs, Manon, lamentablement, et de dire, voilà, c'est exactement ce genre de choses dont j'aimerais qu'on parle, par exemple, c'est ça?
Oui, par exemple, voilà, en objectivant, avec un exemple là, qui est incontestable, et puis de dire, moi j'irais jusqu'à dire, alors, quand vous faites ça, quand vous me coupez la parole, je me sens un peu frustrée. Moi, j'ai besoin là de pouvoir d'être entendue, que vous m'entendiez, et donc je voudrais vous demander là de pouvoir vous exprimer les choses sans que vous m'interrompiez pendant quelques minutes. Est-ce que ça vous semble possible?
Oui, et puis toujours de rester calme. Et c'est vrai que le calme, mine de rien, enfin j'ai toute une théorie là-dessus, mais on n'a pas le temps, mais sur le fait de rester calme, c'est très déconcertant pour les gens qui ne le sont pas, et ça permet de faire évoluer les choses. Alors, maintenant vous parliez de frustration, ben là c'est moi qui vais être frustré parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, mais je vous ai demandé de travailler tout de même, et je vous ai demandé de choisir une citation ou un mantra qui vous parle particulièrement en ce moment. Donc, un, avez-vous bien travaillé? Deux, quel est-il et pourquoi?
J'ai bien travaillé.
C'est bien.
J'ai une citation que j'aime beaucoup et qui correspond bien à ce que je défends chaque jour dans mon travail de coach. L'homme a deux oreilles et une seule bouche pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. C'est de Zénon de Citium. C'est un philosophe grec stoïcien. Donc c'est moins au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, j'aime beaucoup cette citation.
Comme quoi, c'est vraiment la nature humaine, en fait. Hein. Ça remonte à loin, cette problématique de l'écoute. Donc, j'adore cette citation. Merci, je ne la connaissais pas. Et elle est empreinte de bon sens et elle est très chouette. Eh bien, écoutez, Manon Renoncé à Laurent, mille merci de m'avoir accordé ce moment. Je suis sûr que ça va avoir passionné les auditeurs de Happy Work. Alors, bien entendu, les gens qui souhaiteraient en savoir plus peuvent vous contacter sur LinkedIn et sur plein de réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, mais essentiellement LinkedIn. Je vous remercie un million de fois. Désolé de vous avoir coupé la parole un certain nombre de fois, mais ça, c'est mon côté animateur de podcast. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est ça le réflexe, mais je vais travailler dessus, je vous le promets, Manon. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir, Manon.
Au revoir, Gaëlle, merci.